Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
L'Académie des sciences morales et politiques distribue chaque année plus de 50 prix, bourses et médailles. Ces prix récompensent des ouvrages imprimés ou des thèses dactylographiées dans des domaines variés en lien avec la diversité des compétences représentées à l'Académie, philosophie, histoire, sciences politiques, droit, économie, sociologie. Parmi ces distinctions, le prix annuel Edmond Fréville Pierre Messmer, un prix doté de 3 000 euros, décerné au meilleur ouvrage original traitant de stratégie militaire. C'est le général d'aviation Michel Forget, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, qui anime ce prix et qui reçoit ainsi chaque année dans le studio de Canal Académie le lauréat. Découvrez-le maintenant dans cette interview.
Canal Académie a le plaisir de recevoir aujourd'hui le lieutenant-colonel Jérôme de Lépinois, qui est le lauréat du prix Edmond Fréville Pierre Messmer pour l'année 2011, prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Mon colonel, vous êtes docteur en histoire, vous êtes affecté actuellement au Centre d'études stratégiques aérospatiales, CESA, qui est un organisme relevant de l'armée de l'air et implanté à l'école militaire. Et cet organisme est chargé d'animer la réflexion sur les questions relatives au rôle et à l'emploi des moyens aériens et spatiaux militaires et aussi d'organiser, notamment, des colloques sur ces sujets. Et c'est ainsi que vous avez été amené à participer très activement à l'organisation d'un important colloque, il y a à peu près 2 ans de cela, sur le bilan des 30 dernières années d'opérations aériennes, colloque auquel ont participé de nombreuses hautes autorités civiles et militaires françaises et étrangères. Et dans le cadre de ce colloque, vous avez été chargé ensuite, non seulement de regrouper les actes de ce colloque, mais encore de présenter la synthèse dans une introduction qui a été faite sous votre signature, synthèse des interventions et des débats, une synthèse ce qui est d'ailleurs tout à fait remarquable. Finalement, l'intérêt et la qualité de ce livre qui a été réalisé, livre publié en février de cette année, sous le double timbre de la documentation française et du CESA, et préfacé par le général Paloméros, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée de l'air, eh bien, ce livre vous a valu de recevoir cette année donc, le prix Edmond Fréville Pierre Messmer que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si vous le permettez, après cette courte présentation, je vais vous poser quand même un certain nombre de questions. Et ma première question est la suivante. Le titre d'ailleurs, du colloque, qui est en même temps le titre du livre, est Politique, défense, puissance, 2 points. 30 années d'opérations aériennes. Pourquoi 30 années d'opérations aériennes? Quels événements, au pluriel, il y a 30 ans, se sont produits pour justifier ce choix, j'allais dire cette césure dans l'histoire de la stratégie aérienne? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications là-dessus?
Merci, mon général, tout d'abord de me recevoir sur Canal Académie. C'est vrai que le choix d'une date pour le début des opérations extérieures françaises pose un certain nombre de problèmes. Classiquement, on pose l'année 1962, c'est-à-dire l'année de l'indépendance de l'Algérie, comme début des opérations extérieures françaises. Opérations extérieures françaises comprises comme les opérations militaires françaises conduites à l'extérieur du territoire national. 1962, c'est également la date à laquelle le général de Gaulle a créé une force interarmée d'intervention, faite, selon ses termes, pour agir à tout moment, n'importe où.
Oui, mais 30 ans, ça nous ramène à 1977,
alors pourquoi,
78.
Alors pourquoi 1977? Puisque c'est l'année d'une opération extérieure majeure, d'une opération aérienne majeure, qui est l'opération Lamantin. C'est une opération qui a pour objectif de repérer, de neutraliser des raids du Polisario qui déstabilisent le jeune État mauritanien. La France déploie sur place une force essentiellement aérienne pour venir au secours de la Mauritanie.
Cette force aérienne était composée de quoi?
Alors, cette force aérienne est composée d'éléments les plus modernes, si on peut dire, de l'armée de l'air
à l'époque.
Qui sont des Jaguars, qui sont des avions d'attaque au sol, qui sont capables de mener des opérations de bombardement, qui sont également ravitaillables en vol.
Voilà, c'est ça. Et ravitaillables en vol, ce qui a permis qu'ils interviennent depuis la métropole.
Ils sont intervenus depuis la métropole, et puis ils sont intervenus sur place à partir du Sénégal, avec donc de longues élongations jusqu'aux confins mauritaniens. Et grâce donc à cette capacité, qui n'est pas tout à fait neuve dans l'armée de l'air, puisque les premiers avions ravitaillables en vol dans l'armée de l'air sont les F-100, comme vous le savez, mais ce sont les premiers avions français ravitaillables en vol grâce à...
Oui, mais n'est-ce pas aussi la première fois que des avions de cette catégorie, des avions modernes ravitaillables en vol, interviennent réellement dans une opération? À ma connaissance, il n'y a pas eu d'opération aérienne avant en Afrique, où on a ouvert le feu avec des avions de cette catégorie, je dis bien.
Oui, bien sûr.
Hein? C'était ça, là, peut-être la nouveauté. Non?
La nouveauté, c'est donc l'emploi de ces moyens aériens modernes. Après ça, ils continueront une longue période en Afrique, puisque l'année d'après, ils ouvriront le feu au Tchad lors de l'opération TACO. Donc, à la fois, c'est une opération importante parce qu'on emploie des moyens aériens modernes, pour la première fois, des ravitailleurs en Afrique, des avions Jaguar. Mais c'est aussi un style d'intervention. Dans sa conception, c'est une opération moderne grâce au choix d'une composante aérienne importante par rapport à la composante terrestre, donc ce qui permet un engagement et un désengagement rapide.
Et dans cette composante, je m'excuse de m'interrompre, il y avait aussi, il ne faut pas oublier, le transport aérien militaire qui opérait de pair avec les avions de combat, le déploiement et puis même en opération.
Alors, c'est le Transal. C'est pas les premières opérations du Transal en Afrique, contrairement au Jaguar, puisque le Transal est intervenu lors des dernières opérations au Tchad en 1968, dans le Tibesti. Mais c'est effectivement une des opérations importantes pour les Transal.
Donc, le point de départ, c'est effectivement, si j'ai bien compris, à partir des années 1977-78, où on voit un nouveau style d'opération grâce aux performances des avions de combat modernes. Alors, une deuxième question. Dans votre synthèse, vous avez retenu trois points forts de l'armée aérienne. Je cite, sa plasticité politique, son pouvoir de coercition et son caractère politico-compatible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la plasticité politique? Est-ce que ça veut dire que l'armée aérienne est un outil politique dans la gestion des crises? Est-ce une nouveauté?
Alors, j'entends par plasticité politique le caractère malléable, souple, flexible de l'emploi de l'armée aérienne. Cette expression traduit la capacité de l'aviation militaire à s'engager rapidement pour le règlement d'une crise internationale. Ça traduit aussi une vision clausewitzienne de l'emploi de l'outil militaire dans le règlement des crises internationales. Ici, l'arme aérienne sert de prolongement à l'action extérieure de l'État. Il ne s'agit pas, comme Gaston Boutou l'a pu le théoriser, de la guerre vue comme un phénomène socioculturel, ou alors de la guerre vue comme le produit de l'activité humaine tel que l'historien israélien Martin von Creveld l'a traduit dans les transformations de la guerre, mais il s'agit réellement de poursuivre l'action extérieure de l'État par l'emploi des moyens aériens militaires.
Mais est-ce que cette notion de plasticité politique, est-ce que c'est propre à notre époque ou est-ce qu'il y a eu des exemples plus ou moins lointains dans l'histoire? J'ai cru comprendre dans votre livre, vous avez évoqué, je crois, des événements qui sont produits pendant le premier conflit mondial.
Alors, cette plasticité politique de l'armée aérienne, elle apparaît effectivement, en général, dès la Première Guerre mondiale, dès les débuts de l'aéronautique militaire. Le premier engagement extérieur des forces aériennes françaises, c'est 1912, en Yougoslavie, dans les Balkans, en Serbie, aux côtés des Serbes, lorsque l'aéronautique militaire engage des avions Farman en soutien des forces aériennes.
C'est un événement qui est vraiment très très peu connu.
Oui.
Et finalement, cette plasticité politique de l'armée aérienne, elle n'est pas propre à l'armée aérienne. On peut l'appliquer aussi, dans la mesure où on entend par plasticité de considérer l'armée aérienne comme un outil politique dans la gestion des crises. Mais si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans votre livre, ce que vous confirmez, la spécificité de cette plasticité politique, c'est la rapidité d'intervention, c'est la souplesse, c'est la modularité des modes d'action, c'est bien ça.
Alors, c'est quand même une caractéristique de l'arme aérienne. La rapidité d'intervention, la souplesse dans les modes d'action, les capacités à la fois, ce qu'on appelle aujourd'hui kinétiques, c'est-à-dire de frappe aérienne, de bombardement, ou alors les capacités non kinétiques comme le transport, sont des spécificités propres à l'arme aérienne. On peut trouver des capacités propre à l'arme terrestre ou à l'arme navale dans la gestion des crises, mais on ne retrouvera pas cette souplesse d'engagement.
On ne retrouvera pas les qualités que vous venez d'énumérer sans aucun doute. Alors je voudrais poser la question maintenant sur le deuxième point fort que vous avez relevé, le pouvoir de coercition de l'arme aérienne. Alors voulez-vous nous rappeler la définition que vous donnez à ce pouvoir de coercition ?
Alors on peut définir la coercition comme l'emploi limité de la force ou la menace de l'emploi de la force pour contraindre un adversaire à exécuter sa volonté. On distingue donc la coercition, qui est donc cet emploi limité de la force, de la guerre totale, par exemple, qui est l'emploi de la violence sans limite.
Et vous voulez dire par là que le but, c'est pas tant de frapper un dispositif militaire que de s'adresser à un pouvoir politique.
Ce qui est important dans la coercition, c'est ce dialogue entre l'emploi de la négociation, du pouvoir de convaincre et celui de contraindre militairement en utilisant un degré limité de violence et toujours maîtrisé.
Je crois que le conflit du Kosovo est un bon exemple de coercition, non ?
Alors, le conflit du Kosovo est un excellent exemple de coercition en général, puisque c'est l'emploi graduel et limité de la force pour contraindre les Serbes à appliquer les résolutions de l'ONU et à évacuer les forces militaires du Kosovo. C'est un excellent exemple à double titre. Le premier titre, c'est d'abord une opération purement aérienne, avec certes une menace d'emploi des forces terrestres à la fin. Et puis, il y a eu un second titre parce qu'il y a eu un emploi graduel de la violence, d'abord contre les forces stationnés au Kosovo et ensuite sur les centres de gravité qui étaient situés en Serbie.
Au début, les objectifs, c'était les forces militaires serbes au Kosovo qui, elles, se mélangeaient à la foule des réfugiés, d'une part, ou bien elles camouflaient leur matériel dans des régions inaccessibles qu'on ne pouvait pas découvrir. Et c'est ce qui a amené, dans une deuxième phase, à ce moment-là, carrément à agir sur le plan stratégique, alors, au cœur de la Serbie et au cœur même de la capitale. Et là, vraiment, c'était la coercition. On ne visait plus le dispositif militaire, c'était la volonté de Milosevic qu'il fallait affaiblir. C'est bien ça.
En frappant directement à Belgrade des objectifs dont la destruction était susceptible d'amoindrir cette volonté de Milosevic de résister à la pression internationale.
Alors ce concept de coercition, est-ce qu'il ne nous amène pas à réfléchir sur ce que j'appellerais la diplomatie aérienne, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'arme aérienne comme des vecteurs de messages politiques. De même, la diplomatie navale est très connue, on en parle beaucoup, mais quand on réfléchit bien, la diplomatie aérienne, ça existe aussi.
Tout à fait. La coercition, c'est un mode d'action qui rentre dans la diplomatie aérienne. La diplomatie aérienne étant comprise comme l'utilisation des moyens aériens au profit de la politique étrangère de la France. Et donc, dans cette utilisation de moyens, il y a à la fois l'utilisation pacifique de moyens aériens
pour renforcer la coopération entre pays.
On trouve des exemples, la patrouille de France et les tournées de la patrouille de France sont
en Amérique du Sud.
En Chine, sont également des outils de rayonnement politique pour la France, des outils qui aident à accroître et à maintenir l'influence de la politique sur la scène internationale. Mais la coercition, c'est-à-dire la contrainte, l'emploi mesuré de la force pour contraindre un État, fait partie de la diplomatie aérienne.
D'abord que la patrouille de France, qui est allée en Amérique du Sud, il y a eu aussi un détachement de Mirage 2000-5, je crois bien.
Il y a des exercices réguliers. On a des exercices de défense aérienne avec le Brésil, par exemple, qui est un État avec lequel on a de nombreux accords. Rentre dans la diplomatie aérienne également les ventes d'avions. On a vendu beaucoup de Mirages dans les pays d'Amérique du Sud.
Alors, le troisième point fort de l'arme aérienne, vous évoquez son caractère politico-compatible, c'est-à-dire sa faculté de maîtriser le degré de violence qui permet aux politiques, du même coup, de l'employer dans des conflits limités, sans risque excessif d'escalade, ou en tout cas avec un pouvoir de contrôle extrêmement précis. J'évoque le mot contrôle, et ceci apparaît en tout cas dans le livre, car il y a eu beaucoup de débats autour de cela. Contrôle étroit, donc, du pouvoir politique sur l'engagement de l'arme aérienne. Mais est-ce que cela ne présente pas des risques ? D'abord, une tendance qui a été dénoncée au cours du colloque d'utiliser uniquement l'arme aérienne, là où il serait nécessaire sans doute d'engager d'autres armées, d'autres armes, et ce par facilité, ne serait-ce que par l'absence de risques excessifs. Et puis la deuxième tendance, c'est précisément d'exercer un contrôle parfois excessif qui, lui, peut amener à limiter la liberté d'action du responsable militaire engagé dans l'action sur le terrain.
Il faut distinguer dans ces opérations extérieures qui ont pour objectif de défendre des intérêts de puissance et des opérations extérieures qui ont pour objectif de défendre des intérêts vitaux. On est, bien sûr, beaucoup plus dans le premier cas de figure, c'est-à-dire que ces engagements extérieurs depuis 1977 n'ont pour but que de maintenir ou d'accroître l'influence de la France sur la scène internationale, c'est-à-dire de défendre des intérêts de puissance. Et là, il faut noter une tendance depuis 1991, depuis la guerre du Golfe, qui est la réticence des démocraties à risquer la vie de ses militaires sur les théâtres d'opération.
La guerre des remords.
La guerre des remords. Qu'on a beaucoup critiqué.
C'est très vexant d'ailleurs, parce qu'on peut considérer qu'à ce moment-là, que les équipages, ça a moins d'importance, alors que ça en a une, énorme.
Alors, ce qui est intéressant dans l'armée aérienne, c'est sa capacité à être engagée et désengagée très rapidement, et donc il n'y a pas de bourbier possible en engageant l'armée aérienne. Quoiqu'au Vietnam, les premières forces au sol qui ont été engagées, c'était pour protéger les bases aériennes de l'US Air Force. Donc, il y a plusieurs types d'engagements. En 1983, on voit que lors de l'opération Manta au Tchad, le président Mitterrand n'hésite pas à engager plusieurs milliers d'hommes dans la plus grosse opération extérieure depuis la guerre d'Algérie pour défendre uniquement des intérêts de puissance, qui est la place de la France en Afrique, ou tout au moins la défense de l'idée du rôle de la France qu'il se fait en Afrique. Aujourd'hui, on déploie en Libye, par exemple, uniquement une composante aérienne pour défendre des intérêts de puissance.
On a déployé. L'affaire de Libye est terminée. Oui.
Et en Afghanistan, par exemple, on se souvient des premières positions de Jacques Chirac en 2001. Jacques Chirac dit, dès la fin 2001 et début 2002, que la France n'a pas d'intérêts vitaux à défendre en Afghanistan, qu'elle doit s'engager en soutien de son allié américain et qu'elle doit pouvoir se désengager rapidement. Et donc, il engage des forces spéciales, il engage l'armée de l'air, l'aviation, mais il est très réticent à engager des forces au sol.
Je reviens sur cet aspect des choses. N'y a-t-il pas un risque d'avoir un contrôle? Est-ce que ce contrôle n'est pas parfois excessif dans l'engagement des forces aériennes? On a l'impression que les forces aériennes, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, sont suivies d'extrêmement près. Conséquence de leur qualité propre d'ailleurs. La possibilité d'agir loin, très fort, très vite. Donc on sent bien qu'il y a de la part du politique, c'est pas une question de méfiance, mais devant ce fait, si vous voulez, d'exercer un contrôle qui peut aller jusqu'à gêner l'action du responsable de la conduite des opérations aériennes sur le terrain. C'est une idée qui vous semble juste ou pas?
Oui, c'est une idée qui est juste. C'est peut-être sans doute une des caractéristiques de ces engagements modernes de l'armée aérienne qui apparaît dès 1977, dès l'opération Lamantin. C'est la capacité que donnent les moyens techniques au pouvoir politique de donner son autorisation ou non à l'ouverture du feu et au bombardement d'un objectif. Et on retrouve cette caractéristique de 1977 jusqu'aux opérations en Libye actuellement. Si bien que Martin Wolkrevel, cet historien israélien dont je parlais au début de l'interview, a pu dire qu'il fallait aujourd'hui plus de 48 heures à l'armée aérienne pour bombarder un objectif. Et donc il parle de ces 48 heures, il confond la nécessité pour tous les membres d'une coalition de se mettre d'accord sur les objectifs à bombarder et à traiter, et la capacité de l'armée aérienne, elle, à bombarder réellement un objectif. Donc il y a ce facteur politique qui est très important dans les opérations modernes, qui est apparu au Vietnam, qui a été dénoncé au Vietnam aussi, avec le micromanagement qui avait été attribué à l'administration Johnson à l'époque.
Je vous poserai une dernière question. Dans votre livre, vous évoquez les effets politiques, militaires, médiatiques des interventions aériennes. C'était évoqué, je crois, dans la dernière phase du colloque. Et je m'arrêterai un peu sur la dimension médiatique des opérations aériennes. Un des intervenants, je crois que c'était M. Bollaert, qui était l'ancien directeur du Figaro, a mis notamment en évidence deux faits. D'abord que l'intervention des forces aériennes en opération, mais c'est vrai, elle est très appréciée par sa rapidité, sa précision, sa modularité. On vient d'en parler. Mais cette appréciation, elle est fragile. Elle est fragile parce qu'il y a le problème des dommages collatéraux qu'il faut absolument éviter. Les moyens aériens aujourd'hui disposent d'armes qui sont d'une précision étonnante, à ce qu'on appelle les frappes chirurgicales, et quelquefois, il peut y avoir une erreur. Et l'arme aérienne, qui était jusqu'ici considérée au cours d'une opération comme l'arme sublime, eh bien, elle devient brusquement une arme responsable, n'est-ce pas, de ces dommages collatéraux. Il y a eu, non pas du côté français, mais du côté allié, en Afghanistan, quelques exemples de ce côté-là. Vous êtes d'accord?
Alors, souvent, c'est vrai que la question des dommages collatéraux est liée. On lie tout de suite l'emploi de l'arme aérienne à la difficulté de bien désigner un objectif et de ne pas faire de victimes civiles. Il faut bien voir que l'arme aérienne n'a pas ce pouvoir de discrimination qu'ont les forces terrestres. En Afghanistan, il y a très très peu, et quand je dis très très peu, c'est sans doute une mission sur 100, et encore je compte large, où il y a un emploi autonome de l'arme aérienne, c'est-à-dire où le pilote décide de larguer sa bombe sur un objectif tout seul, sans appréciation d'un observateur au sol. pratiquement tous les tirs en Afghanistan, air-sol, sont des tirs qui sont déclenchés par un observateur au sol qui seul a le pouvoir de discrimination, si je peux dire, entre un objectif militaire justifiable d'une frappe aérienne et un tir qui peut faire des victimes civiles. C'est la caractéristique un petit peu de ces engagements, on dit, en contre-guérilla, dans les guerres de contre-insurrection, où il ne peut y avoir emploi de l'armée aérienne qu'en liaison avec un élément au sol qui, lui, est capable de s'assurer que l'emploi de cette violence, qui est le tir d'une bombe air-sol, donc qui est capable de causer beaucoup de dégâts, oui, ne va pas faire plus de victimes civiles que...
Ça, c'est valable. En Afghanistan, il empêche qu'il peut y avoir des frappes qui sont données sur coordonnées extrêmement précises. C'est ce qui se passait au-dessus de la Serbie, et notamment au-dessus de la capitale, lorsque, vous savez... à la suite d'une erreur de coordonnées, a été frappé un établissement qui n'était pas prévu, ce qui a créé un problème diplomatique de première grandeur. Et tout ça pour expliquer ce qui se trouve d'ailleurs dans votre livre, la charge très lourde qu'ont les équipages avant de larguer ces armes ultra précises, de bien vérifier que l'objectif qu'ils visent est le bon et que leur arme va effectivement frapper cet objectif et pas à côté. C'est une charge extrêmement lourde qui apparaît, en tout cas, dans les dépositions que l'on retrouve dans ce livre-là.
Ce sont les règles d'engagement. Les pilotes doivent respecter des règles d'engagement extrêmement restrictives, dont l'objet, en partie, est d'éviter ces dommages collatéraux. Et si on regarde le dernier engagement de l'armée de l'air en Libye, on a pu voir qu'il y a eu très peu de dommages collatéraux et très peu de civils qui ont été victimes de frappes aériennes.
Absolument. Pour terminer sur cette dimension médiatique, j'en viens au deuxième fait qu'a souligné l'un des intervenants, c'est que l'excellente image actuellement des aviateurs militaires, et notamment ceux de l'armée de l'air, auprès du public, c'est tout à fait remarquable, les sondages sont formidables, mais est-ce que ça veut dire pour autant que le public s'intéresse vraiment à cette arme? Vous voyez, c'est pas parce que dans les sondages vous plaisez, tout le monde est content de vous comme ça, qu'il y a un intérêt manifeste pour le développement de cette arme. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus là, qui est susceptible d'apparaître?
Il y a deux éléments en général. Il y a l'attrait des Français pour l'air. C'est un attrait qui date peut-être des premiers vols de Santos Dumont avant et qui est toujours d'actualité. La chose aérienne est assez populaire en France, comme le Concorde, et ça touche pas seulement l'aviation militaire, ça touche également l'aviation civile. Et puis il y a cette connaissance réelle des réalités des engagements militaires de l'armée de l'air sur tous les théâtres, et ça qui est assez faiblement répandu dans le public.
Ceci m'amène à la conclusion de ce débat, si vous voulez, c'est que je soulignerai que précisément les opérations qui ont été menées récemment en Libye ont bien illustré tout ce qui était présenté dans ce livre de réflexion sur les 30 dernières années d'opérations aériennes, c'est-à-dire la rapidité de réaction, l'allonge des vecteurs, la modularité, la précision, l'effet de coercition. Tout cela apparaît dans ce livre. Pendant cette guerre menée en Libye, cela a été vrai pour l'ensemble, bien sûr, des forces aériennes engagées, mais je dirais tout particulièrement pour celles de l'armée de l'air. Je dis bien de l'armée de l'air, qui, elles, sont intervenues quelques heures après les décisions d'intervention prises par le président de la République le 19 mars. Je dis bien quelques heures, bloquant ainsi l'offensive des forces de Kadhafi sur Benghazi. Ça a été le premier acte. C'était un peu de la coercition, là.
Oui.
Une coercition musclée. Et puis des forces qui, ensuite, ont poursuivi leur action sans discontinuer jusqu'à la fin de l'opération, et ce, à partir de leur base de France, des bases de Sicile et de Crète. C'est-à-dire que l'armée d'air a réalisé la permanence dans l'action, car cette guerre a duré 226 jours. Il faut quand même le rappeler, 226 jours, du 19 mars au 30 octobre de cette année, et toutes les unités aériennes de l'armée d'air ont participé, que ce soit les avions de combat en attaque au sol, que ce soit la défense aérienne, que ce soit la reconnaissance, et que ce soit les hélicoptères et le drone. Voilà, en tout cas, mon collègue, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Permettez-moi de vous féliciter encore pour ce livre, dont je rappelle le titre, Politique, Défense, Puissance, 30 ans d'opérations aériennes, qui est paru cette année sous le timbre de la documentation française et du Centre d'études stratégiques aérospatiales. Merci, mon colonel.
Merci, mon général.